Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria. Nous sommes toujours en direct de la porte de Versailles pour le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et donc nous sommes toujours sur le stand de l'UNAM. Nous allons parler du contexte juridique en pleine évolution et quels sont les leviers pour demain. Alors je reçois David Gillig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat associé au cabinet Solaire Couteau et Associés. Et c'est un plaisir de vous recevoir puisque une autre personne est présente sur le plateau. Il s'agit de Paul Meyer. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais juste intervenir pour vous remercier, alors Bérénice, pour ces émissions et surtout David Gillig et le cabinet Solaire Couteau, qui est le partenaire de l'UNAM sur l'assistance et le suivi juridique. C'est important pour nous d'avoir un lien de confiance avec ce grand cabinet, très reconnu dans le secteur de la promotion et de l'aménagement, qui accompagne au quotidien les adhérents de l'UNAM lorsqu'ils font face à des difficultés juridiques. Et on sait, dans le métier, elles peuvent être très nombreuses. Et donc, pouvoir s'appuyer sur la fiabilité, la rigueur de ce grand cabinet, eh bien pour nous, c'est une assurance extrêmement importante. Et donc, on tenait, en début de cette émission, juste à vous saluer, à vous remercier, et puis à rappeler à nos auditeurs qu'être adhérent de l'UNAM, eh bien, c'est aussi pouvoir profiter de ce type de service exclusif. Voilà, merci Maître, merci Bérénice.
Eh bien, merci beaucoup Paul Meyer, je rappelle que vous êtes délégué général de l'UNAM. Alors Maître, nous allons aborder plusieurs sujets. On va commencer avec la problématique des refus de permis de construire et de permis d'aménager, hein, qui impacte évidemment les aménageurs, et pas que les aménageurs également. Les problématiques des chartes urbanisme ou des chartes promoteurs. Et enfin, on terminera avec les friches. On se posera la question, est-ce que c'est le nouvel Eldorado ou le calvaire des aménageurs? Alors, un petit mot déjà pour commencer sur ces permis de construire et ces permis d'aménager. Hein, il y a une véritable problématique, on peut le dire. Est-ce que vous constatez un accroissement du nombre de refus de ces deux permis?
Tout à fait. Absolument, on constate depuis un certain nombre d'années une augmentation, je dirais, exponentielle du nombre de refus. Pour donner quelques exemples, il y a 10 ans, je traitais 2 à 3 refus de permis par an devant le tribunal administratif et devant les juridictions administratives. Aujourd'hui, on est davantage sur 2 à 3 refus contestés par semaine, ce qui montre quand même qu'il y a une explosion effectivement du nombre de refus de permis de construire et de permis d'aménager, à telle enseigne que certains maires, en Alsace en tout cas, je ne l'ai vu que sur notre territoire, n'hésite pas à faire des campagnes de promotion publicitaire, se vantant d'avoir refusé depuis leur élection en 2020 l'ensemble des demandes de permis de construire qui concernent plus de 5 logements dans le cadre d'un collectif.
Alors c'est vrai qu'on dit qu'il y a quasiment un permis de construire sur 2 qui est refusé. Comment vous expliquez cette situation? Est-ce qu'il y a...
Alors il y a plusieurs explications. C'est qu'aujourd'hui, on sait que dès qu'un permis de construire est délivré, quand il s'agit d'un collectif en milieu urbain, mais également en milieu rural, ça génère, je dirais, une levée de bouclier du voisinage. Certains maires préfèrent prévenir une contestation des autorisations d'urbanisme qu'ils délivreraient et préfèrent finalement refuser de délivrer les autorisations d'urbanisme plutôt, encore une fois, d'avoir à subir un contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de l'autorisation qui aurait été délivrée. Ça, c'est la première explication. La seconde, elle est, je dirais, très électoraliste, si je puis employer ce terme, c'est que certains maires tiennent à conserver leur mandat. Et on sait qu'aujourd'hui, l'urbanisme est un enjeu majeur pour un maire, pour être élu ou conserver son mandat. Pour donner là encore quelques exemples de notre région strasbourgeoise, 3 maires ont dû démissionner en l'espace de quelques années parce qu'il y a eu en réalité renversement de la majorité au sein du conseil municipal lié à des problématiques de délivrance d'autorisation d'urbanisme, et le maire finalement n'a pas pu tenir sa majorité. Démission collective des membres du conseil municipal, nouvelles élections précipitées en cours de mandat.
Donc on rentre vraiment dans des questions politiques, en fait, c'est ça le problème.
Aujourd'hui, c'est extrêmement politique, effectivement. Oui.
Alors justement, là, on va rentrer dans le très pratico-pratique. Quelles sont les possibilités offertes à un aménageur, à un constructeur qui se voit notifier un refus de permis de construire ou d'aménager?
Alors, si le refus est illégal, l'aménageur, le porteur de projet ou le promoteur immobilier peut évidemment contester ce refus d'autorisation d'urbanisme. Alors, évidemment, dans un cadre amiable, au préalable, s'il le souhaite. En pratique, on constate que ce type de procédure amiable ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, les élus restent campés sur leur position. Donc, nous, ce qu'on conseille usuellement, c'est d'aller directement devant le tribunal administratif.
Donc, en fait, la médiation ne sert à rien.
La médiation ne sert strictement à rien. Le cadre amiable ne sert strictement à rien. Il faut aller directement devant le tribunal administratif. Dans le cadre d'un recours en annulation, on va voir qu'il y a eu des réformes très récentes qui ont amélioré, j'y reviendrai après, le traitement de ces contentieux, qui sont relativement longs tout de même. Ou alors, il y a une possibilité, si on ne veut pas attendre trop longtemps, d'assortir le recours en annulation de ce qu'on appelle une demande de référé suspension, qui permet au promoteur ou au porteur du projet ou à l'aménageur de faire juger par un juge des référés dans un délai d'environ un mois que le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager est illégal.
D'accord. Donc un mois, c'est le délai en moyenne.
Ça, c'est quand il y a un référé. Alors le problème du référé, c'est qu'aujourd'hui, et malheureusement, le pouvoir réglementaire, le gouvernement n'a pas suivi certaines préconisations qui avaient été formulées par les professionnels de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une très grande difficulté pour obtenir, je dirais, une ordonnance du juge de référé qui suspend le refus de permis d'aménager. C'est ce qu'on appelle la condition d'urgence. Et cette condition d'urgence, classiquement, n'est malheureusement pas retenue par le juge administratif.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la substitution de motifs ?
Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pervers dans notre pratique. C'est qu'en principe, le code de l'urbanisme, c'est l'article L424-3, prévoit que l'intégralité des motifs de refus doivent figurer dans la décision qui précisément refuse le permis d'aménager ou le permis de construire. Malheureusement, le Conseil d'État, a une jurisprudence qui est très ancienne et qu'il a maintenue en dépit de cette disposition législative, c'est qu'il considère que l'administration en cours de procédure contentieuse peut toujours invoquer un autre motif de refus que ceux qui ont été invoqués dans le refus de permis d'aménager ou dans le refus de permis de construire. Et si effectivement ce motif est considéré par le juge comme étant susceptible de fonder le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager, il va rejeter la requête qui a été formée contre le permis de construire ou le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager. Donc c'est quelque chose qui est très pervers. Et nous, nous battons, notamment avec la Fédération des promoteurs immobiliers, mais également avec l'UNAM, pour qu'à un moment donné, on consacre dans l'ordonnancement juridique le principe selon lequel on ne peut pas, en cours d'instance, invoquer d'autres motifs de refus que ceux qui figurent effectivement dans l'arrêté signé par l'autorité compétente.
Alors, dans le cas où un tribunal administratif a annulé un refus de permis de construire ou de permis d'aménager, est-ce que ce tribunal administratif peut lui-même délivrer un permis de construire ou un permis d'aménager ? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là,
le tribunal ? Alors ça, c'est une véritable révolution qui est intervenue depuis 2018, puisqu'effectivement, là, cette fois-ci, le Conseil d'État est allé dans le sens des aménageurs et des lotisseurs. Le Conseil d'État a considéré qu'à partir du moment où le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager est entaché d'illégalité, et que l'administration, précisément en cours de procédure, n'arrive pas à démontrer qu'un autre motif de refus aurait pu fonder celui-ci, et que le requérant saisit de conclusion le tribunal en ce sens en disant « Je vous demande d'enjoindre au maire de Strasbourg, par exemple, de me délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager », le juge a effectivement ce pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui-même délivrer l'autorisation, mais il va mettre en demeure, en quelque sorte, l'autorité compétente de signer le permis de construire ou le permis d'aménager dans un délai de 2 mois ou 3 mois. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement favorable pour les aménageurs et pour les lotisseurs. Et je formulerai juste une observation pour montrer que c'est bien politique. Un maire, finalement, il aura une tendance naturelle à refuser le permis de construire ou le permis d'aménager en se disant, de toute façon, si mon refus est illégal, le tribunal va m'imposer de le délivrer. Et vis-à-vis des électeurs, je pourrais dire, ce n'est pas moi qui ai signé le permis de construire, je l'ai signé parce que j'ai été forcé par la juridiction administrative de le signer. Donc c'est un moyen, encore une fois, détourné pour les autorités compétentes.
Oui, un moyen pas moral.
Mais pour le maire, c'est très facile de dire, oui, j'ai signé un permis de construire, j'ai signé un permis d'aménager, mais c'est sous la contrainte de la juridiction administrative, ce qui est quand même beaucoup plus facile vis-à-vis de son électorat, on pourrait dire.
Est-ce qu'on peut dire que la situation des constructeurs, des aménageurs qui sont donc victimes d'un refus de permis de construire ou de permis d'aménager s'améliore au niveau justement du traitement des recours contentieux formés par ce type de refus d'autorisation d'urbanisme?
Effectivement, et là je pense que vous visez un décret qui est assez récent, qui est un décret du mois de juin 2022 qui a introduit deux nouvelles dispositions. La première qui est de dire que désormais le juge dispose d'un délai de 10 mois pour statuer sur un recours contre un refus de permis de construire qui concerne un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre un refus de permis d'aménager. Donc ça, c'est un véritable point fort pour les aménageurs et pour les promoteurs immobiliers, puisque je rappelle que jusqu'à présent, le délai approximatif de traitement de ce type de contentieux était plutôt entre 18 et 24 mois, ce qui va souvent au-delà du délai de validité de la promesse de vente ou du compromis de vente dont l'aménageur ou le promoteur immobilier bénéficie. Là, on a dit le juge a 10 mois pour statuer sur ce type de contentieux. Donc ça, c'est quand même très favorable, même si ça peut paraître encore un peu long pour certains aménageurs et certains constructeurs, enfin promoteurs immobiliers. C'est quand même un gros avantage par rapport à une période pas si récente où, moi je me rappelle, il y a 10 ans, on était plutôt sur des délais de 3 ans, voire 4 ans, oui, devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, c'est un délai de 10 mois. Ça n'a plus rien à voir. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er septembre 2022. Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, mais qui va également dans le même sens, c'est toujours en faveur des aménageurs et des promoteurs immobiliers, c'est que désormais, pour les projets qui sont situés sur une partie d'une commune qui est située dans ce qu'on appelle une zone tendue, toujours pour un refus de permis d'aménager ou un refus de permis de construire qui concerne un bâtiment de plus de 10 logements, il y a la suppression de la voie d'appel, ce qui est très important. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait? Refus de permis de construire, le refus est annulé, l'autorité compétente saisit la cour administrative d'appel, on est reparti à nouveau sur 2 ans, voire 3 ans. Là, cette voie d'appel est définitivement supprimée pour ce type de projet, encore une fois, uniquement pour les communes zones tendues.
Alors là, on a fait le tour du coup des refus de permis de construire et des permis d'aménager. On va parler de la problématique des chartes urbanisme ou chartes promoteurs avec un constat, elles se multiplient. On assiste à une véritable prolifération, surtout dans les grosses communes, hein, par exemple en première et deuxième couronne parisienne. Pourquoi on assiste à ce recours aux chartes?
Moi, j'ai deux explications. La première, c'est que, comme vous le savez, il y a eu il y a de plus en plus de transferts de compétences en matière d'élaboration des PLU des communes vers les intercommunalités, de sorte que les communes ont perdu leurs compétences en matière d'élaboration du document d'urbanisme. Pour ces communes, il y a un moyen détourné de recouvrer cette compétence et d'imposer finalement de nouvelles normes à des aménageurs, à des constructeurs. C'est d'élaborer la charte. Ça, c'est la première explication. La seconde, c'est que il y a une volonté accrue, et on le constate presque tous les jours, des collectivités locales et en particulier des communes, d'imposer de nouvelles normes qu'elles ne pourraient pas éditer dans le cadre d'un PLU, puisque le PLU, il y a un cadre qui est fixé par le code d'urbanisme qui dit voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PLU. À partir du moment où une charte n'est pas un PLU, à partir du moment où il n'y a pas de cadre juridique qui détermine le contenu d'une charte, les communes se disent « je vais me doter d'une charte pour imposer à peu près tout ce que je veux à un aménageur ou à un promoteur immobilier ».
Alors maître, justement, peut-on faire un focus sur la charte promoteur? Qu'est-ce que c'est exactement?
Si vous voulez, c'est alors simplement la charte au départ, je crois que c'est important de partir là-dessus, avant de parler même de charte de promoteur ou de charte d'urbanisme. Au départ, dans l'histoire, et je reviens au Moyen-Âge et à l'Angleterre, la charte, en fait, c'est des droits qui sont conférés par un souverain à ses sujets. C'est ça, la charte. On parle souvent d'une charte des droits de l'homme, une charte du droit du contribuable. La charte de l'urbanisme ou la charte du promoteur, on a complètement changé de paradigme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette charte ne confère plus droit, quasiment plus ou aucun, aux promoteurs, aux aménageurs.
Elle ne vient interdictions, des contraintes.
Elle ne vient imposer que des contraintes et de nouvelles obligations. Alors, au départ, ça part d'un bon sentiment d'améliorer, je dirais, la qualité architecturale des projets. On retrouve dans un grand nombre, effectivement, de chartes promoteurs ou de chartes aménageurs ou de chartes urbanisme, effectivement, des dispositions qui sont relatives à la qualité architecturale, l'emploi des matériaux, les espaces verts. Simplement, on a progressivement modifié le contenu de ces chartes, puisqu'aujourd'hui, ces chartes comportent d'autres, je dirais, contraintes, et notamment des contraintes formelles et des contraintes procédurales, pour donner quelques exemples. Dans le cas d'une charte, on va imposer à un promoteur ou un aménageur de présenter son bilan opérationnel, ce qui est évidemment totalement exclu, puisque ce n'est absolument pas prévu, je dirais, dans le code d'urbanisme, dans le cadre d'un PLU. On va demander à un aménageur ou à un promoteur de limiter le prix de sortie de ses logements ou de ses lots de lotissement. On va demander à un lotisseur ou à un aménageur de produire, je dirais, très en amont du dépôt de la demande de permis d'aménager ou de la demande de permis de construire, des pièces qui ne sont absolument pas prévues par le code de l'urbanisme. On va le soumettre à des formalités qui ne sont pas du tout prévues par le code d'urbanisme. Je rappelle que le code d'urbanisme comporte un cadre réglementaire extrêmement précis qui énumère limitativement les pièces que le service instructeur est en droit de réclamer. Le code de l'urbanisme fixe de manière très normée et très encadrée, je dirais, la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Au travers d'une charte, on va retrouver de manière quasi systématique une procédure de pré-soumission d'un projet très en amont qui va être soumis à une commission constituée du service urbanisme de la collectivité, de tel élu de la collectivité. Donc on sort complètement du cadre réglementaire qui est prévu par le code de l'urbanisme.
Et alors justement, qui adopte ces chartes, par exemple ces chartes promoteurs ?
Alors, soit c'est un arrêté qui est pris par le maire de la commune, soit plus régulièrement, c'est une délibération qui est prise par le conseil municipal qui va approuver effectivement cette charte.
Alors récemment, on a vu que le tribunal administratif de Rouen a annulé une charte promoteur. C'était le jugement du 26 janvier dernier, donc c'est assez récent.
Vous êtes très précise.
J'ai la mémoire des dates. Est-ce que ça signifie que toutes les chartes sont illégales ? Est-ce qu'on peut faire ce raccourci-là ?
Alors, je serai plus prudent, si vous voulez, dans mon analyse. Alors, effectivement, ce que le tribunal administratif de Rouen a annulé dans son jugement du 26 janvier dernier, c'est la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a approuvé une charte. Le tribunal administratif a en réalité annulé cette charte pour deux séries de raisons. Première raison, il a considéré qu'à partir du moment où la commune avait transféré sa compétence à la communauté d'agglomération, elle n'avait pas compétence pour approuver un document qui comportait des normes que l'on retrouve habituellement dans un plan local d'urbanisme. Évidemment, j'ai transféré ma compétence, je n'ai plus compétence. Il y a donc incompétence à avoir adopté la charte, ce qui paraît assez imparable. Deuxième motif d'annulation qui a été retenu par les juges rouennais, c'est précisément d'avoir considéré que la charte ne pouvait pas imposer des règles procédurales, celles dont j'ai parlé avant, qui ne figurent pas dans le code de l'urbanisme. On ne peut pas effectivement imposer à un porteur de projet de se soumettre à une procédure de présélection, de présentation de son projet, avant effectivement le dépôt de sa demande de permis de construire. Donc ça, c'est le second motif qui a été retenu par les juges rouennais. En revanche, il faut vraiment en avoir conscience, ça ne signifie pas, en tout cas le jugement ne s'est pas prononcé là-dessus, ça ne signifie pas que toutes les chartes d'urbanisme sont entachées d'illégalité, ou que toutes les délibérations, pour être plus exact juridiquement, toutes les délibérations ayant approuvé une charte sont juridiquement entachées d'illégalité. Le juge ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les auteurs d'une charte étaient en droit ou non d'imposer finalement des règles qui sont strictement des règles de fond d'urbanisme. De mon point de vue, je pense que quand le tribunal ou un autre tribunal sera saisi de la question, je pense qu'il l'annulera aussi pour ce motif, pour une raison très simple, et je l'ai déjà expliqué précédemment, c'est qu'en réalité, on a un cadre qui habilite l'auteur du PLU et qui dit ce qu'on peut mettre dans un PLU. En matière de charte, on n'a pas de cadre juridique. Or, il serait contraire, si vous voulez, je dirais, aux principes généraux du droit, que d'autoriser finalement une commune qui n'a pas de compétences en la matière pour édicter des règles d'urbanisme, de pouvoir les édicter dans le cadre de cette charte. Donc je pense qu'effectivement, on a une vraie problématique juridique des chartes. Mais en fait, il faudra apprécier quand même au cas par cas si effectivement la charte est illégale ou elle n'est pas illégale. En l'état, on ne peut pas dire que toutes les chartes sont entachées d'illégalité.
Et pour finir, est-ce qu'on peut parler des chartes plus anciennes? Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait rétroactif? Quel serait leur sort?
Oui, alors je pense que même pour les chartes qui n'ont pas encore été approuvées et qui vont l'être très prochainement, on peut imaginer que tout tiers intéressé, ça peut être un promoteur immobilier, ça peut être un aménageur, ça peut être une organisation représentative des métiers de l'immobilier, la Fédération des promoteurs immobiliers, l'UNAM par exemple, pourrait contester la légalité de la délibération d'un conseil municipal qui peut encore être contestée dans le délai parce que le délai de recours n'est pas encore expiré et qui pourrait effectivement demander au tribunal administratif d'annuler la délibération ayant approuvé la charte. Et je pense que ça ne va pas être des promoteurs qui vont le faire directement, ça ne va pas être des aménageurs qui vont le faire directement parce que sinon, il y aura immédiatement des mesures de représailles de la collectivité. Ça veut dire que si vous ne voulez plus travailler sur le territoire de la commune, la meilleure chose à faire, c'est attaquer la délibération qui a été prise par le conseil municipal. Dans ce cas-là, il vaut mieux dépersonnaliser et que finalement, ce soit l'instance représentative, Fédération de promoteurs immobiliers, UNAM, FFB, qui attaque cette délibération, avec des chances, encore une fois, très importantes de succès. Pour les chartes plus anciennes, vous avez raison de poser la question. S'agissant des chartes plus anciennes, ça n'est pas parce que finalement le délai de recours à l'encontre de la délibération est déjà expiré qu'on ne peut pas les remettre en cause. Pour une raison très simple, c'est qu'en droit français, on considère que un document d'urbanisme, et la charte est clairement un document d'urbanisme au point de vue juridique, c'est un acte réglementaire. Or, comme tout juriste qui a fait quelques années de droit, et notamment du droit administratif, s'en souvient, un acte réglementaire peut être abrogé sans condition de délai. Quand je dis abrogé, ça veut dire qu'il va disparaître de l'ordonnancement juridique pour l'avenir, ce qui le différencie d'un retrait où il y a un effet rétroactif. N'importe qui a un intérêt pour agir va pouvoir demander à la ville de, j'invente, la ville de Strasbourg qui a adopté une charte, d'abroger cette charte qui a été approuvée il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Si l'autorité compétente, c'est-à-dire la ville de Strasbourg, refuse d'abroger cette charte alors qu'elle serait illégale, encore faut-il qu'elle soit illégale, ce sur quoi il faudrait se pencher, ce qui n'est pas certain, n'importe quel tiers intéressé serait en droit de saisir le tribunal administratif pour demander au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune concernée a rejeté la demande d'abrogation, en demandant également au juge, en cas d'annulation de cette décision de rejet de la demande d'abrogation, d'annuler effectivement la charte. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, seconde solution plus exactement, vous avez demandé un permis de construire ou un permis d'aménager. L'autorité compétente se fonde sur la charte pour vous refuser l'autorisation d'urbanisme demandée. Vous êtes en droit, comme c'est un acte réglementaire, de demander au juge d'écarter l'application illégale de l'acte réglementaire et donc de ne pas vous l'appliquer, ce qu'on appelle dans notre jargon l'exception d'illégalité. Ce sur quoi j'insiste, parce que je crois que c'est important de le rappeler, les préfets qui sont l'autorité qui est chargée du contrôle de légalité ont le pouvoir, eux aussi, de déférer, je dirais, devant les juridictions administratives, les chartes qui sont illégales. Et il est assez intéressant de relever que dans le jugement du tribunal administratif de Rouen précisément, c'est sur saisine du préfet que le tribunal administratif a annulé la délibération. Ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas un aménageur, ça n'est pas une instance représentative, je dirais, des métiers du bâtiment ou de la construction de l'aménagement qui s'est manifestée. C'est le préfet qui a saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation de cette charte.
On a fait le tour donc des chartes. On va passer au troisième et dernier sujet, un sujet au cœur de nombreux débats, les friches. Est-ce que ce sont le nouvel Eldorado des aménageurs ou plutôt le calvaire de ces derniers? Alors peut-être on va resituer le contexte, hein, la loi climat et résilience qui a fait apparaître cet objectif. Donc la loi climat et résilience qui date d'août 2021, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte voilà, cette loi invite, en fait, ordonne de consommer foncièrement ces friches.
De fait, donc en réalité, la loi effectivement du 22 août 2021 climat et résilience poursuit plusieurs objectifs, dont deux objectifs majeurs en ce qui concerne en tout cas les aménageurs. C'est d'une part effectivement de réduire de 50% l'artificialisation des sols sur la décennie 2021-2031 par rapport à ce qui a été consommé entre 2011 et 2021. Ça, c'est le premier objectif. Avec cet objectif, cet autre objectif majeur et fondamental, ce sera très probablement compliqué à atteindre.
Pour vous, c'est pas possible.
Et il sera probablement remis en cause d'ici là, parce qu'on va se rendre compte qu'on est allé peut-être trop loin, effectivement, dans cette volonté de protéger les zones et d'éviter la consommation des sols. C'est d'arriver à l'horizon 2050 à zéro, ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que finalement, il ne pourra plus y avoir d'artificialisation des sols qui ne serait pas compensée par une opération de renaturation. Donc ça, c'est les deux objectifs majeurs en ce qui concerne l'aménagement.
Donc il faut forcément se retourner vers les friches.
Donc il faut se retourner vers les friches, puisqu'effectivement, comme on a la volonté d'éviter une consommation maximale de ce qui aujourd'hui sont des espaces non artificialisés, on s'est dit, le nouvel Eldorado, c'est pour ça qu'on parle du nouvel Eldorado, c'est finalement les friches. Et d'ailleurs, on l'a senti parce que depuis quelques années, on a des gros aménageurs qui se positionnent sur des acquisitions de friches qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Au contraire, au cours, on va dire, des 10 dernières années, vous aviez beaucoup de friches qui n'intéressaient personne. Et depuis quelques années, on a vraiment une nouvelle politique des gros groupes qui est effectivement de se positionner sur des friches parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'avenir de l'aménagement, il porte quand même largement là-dessus, sachant qu'au point de vue statistique, on dit qu'on serait entre 150 000 et 190 000 hectares de friches qui existeraient en France, sachant que les friches, ça peut être d'un ancien site militaire, ça peut être du ferroviaire.
Alors justement, oui, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, tout le monde a ce mot-là à la bouche, friche, mais qu'est-ce que c'est en fait concrètement une friche? Qu'est-ce que ça peut être?
On a une définition qui est juridique, qui est donnée, ce qui a été introduit par la loi climat-résilience de 2021 dans le code d'urbanisme, qui définit effectivement la friche en nous disant que c'est un bien bâti ou non bâti, donc le bien peut ne pas être bâti, qui est inutilisé, et dont l'état, la configuration, l'occupation totale ou partielle ne permet pas un remploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Voilà la définition qui est donnée par le code d'urbanisme, étant précisé que le code d'urbanisme renvoie à un décret le soin de préciser le contenu de sa définition. À ma connaissance, le projet de décret a fait l'objet d'une consultation publique au mois de novembre et au mois de décembre 2022. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été adopté par la Première ministre. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
Il avait peut-être d'autres soucis en ce moment.
Il y a d'autres soucis, effectivement.
Alors tout à l'heure, vous parliez de l'estimation de ces friches en France. Est-ce qu'il y a un outil qui permettrait de recenser toutes les friches?
Oui, alors on a un outil qui est effectivement ce qu'on appelle carte aux friches, que vous trouvez sur le site notamment du CEREMA, qui, de manière régulière, vient recenser les friches. La dernière estimation qui a été faite, qui date du mois de janvier 2023, on estime à environ 8200 le nombre de friches, et ce qui est important de relever, dont 3000 qui appartiennent à des collectivités publiques. Donc il y a un vrai vivier, de friches qui aujourd'hui pourrait être mobilisé sous réserve, mais on y reviendra après, sous réserve que la collectivité publique soit évidemment favorable à sa reconversion.
Alors justement, est-ce qu'il y a une actualité concernant ces friches?
Oui, alors j'en ai parlé avec le président Rieussec avant. On a parlé d'une proposition de loi qui a été adoptée il y a une quinzaine de jours, tout à fait, au Sénat, et qui a décidé, et c'est extrêmement important, de considérer que les friches sont artificialisées. C'est-à-dire que dans la définition de ce qui est artificialisé et non artificialisé, les friches sont considérées comme des espaces artificialisés, ce qui évidemment va avoir une incidence extrêmement importante, oui, par rapport au contingent finalement de zones qu'on va pouvoir encore artificialiser dans le cadre.
C'est pas une nouvelle zone à artificialiser.
Non, on considère qu'elle est déjà artificialisée. Comme elle est déjà artificialisée, finalement, on ne va pas en tenir compte dans le fameux
dispositif ZAN.
Exactement.
Donc ça, c'est très important pour les aménageurs.
Extrêmement important.
Alors justement, est-ce qu'il y a des leviers financiers hein, ou fiscaux, on en parle beaucoup, qui favorisent la réhabilitation des friches en vue de permettre le développement d'opérations d'urbanisation parce que on le dit, alors on le répète, c'est vrai que ça coûte plus cher en fait de réhabiliter une friche. Les aménageurs le disent. Donc est-ce qu'il y a des leviers qui permettent justement de réduire un petit peu cet impact financier ?
Oui, vous avez parfaitement raison, parce que le gros obstacle aujourd'hui, et ça a été, dénoncé à plusieurs reprises par les parlementaires, notamment le Sénat dans un rapport de 2022, c'est qu'aujourd'hui, sans financement public, il est extrêmement compliqué pour un aménageur de réhabiliter une friche dans le but, évidemment, d'y réaliser une opération d'urbanisation. Sans les leviers financiers, fiscaux qui sont proposés par les pouvoirs publics, c'est une opération quasiment impossible à mettre en œuvre. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement marginal. Alors effectivement, mais je crois qu'il y a déjà eu une intervention hier là-dessus sur le fonds friche, donc je rappellerai simplement l'importance de ce fonds friche avec des conditions d'éligibilité qui sont quand même assez drastiques. Ce n'est pas facile d'obtenir effectivement une subvention ou une aide via le fonds friche. Cela étant, c'est quand même quelque chose qui est majeur, parce que si l'on se reporte aux données qui ont été fournies par les services de l'État, on nous dit quand même que ce fonds friche, il a vocation à permettre la réhabilitation de 2700 hectares de friches, qui est quand même...
C'est non négligeable.
C'est non négligeable. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, ce qui permettrait de générer environ 6 millions de mètres carrés de logement, enfin de surface de plancher pour du logement, ce qui est quand même extrêmement important. Et on a eu, au cours de l'été 2022, ce qu'on appelle la troisième édition du fonds friche, qui a quand même permis d'attribuer à un peu plus de 260 aménageurs plus de 120 millions d'euros qui ont permis, effectivement, là encore, de permettre le développement d'environ 1 million de mètres carrés de surface de plancher pour du logement, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc le fonds friche reste malgré tout quelque chose d'extrêmement important. On a des fonds qui sont un petit peu connexes, notamment l'ADEME, mais bon... L'ADEME n'a pas non plus, des moyens sans limite. On va dire que les projets qui ne sont pas éligibles au fonds friche peuvent éventuellement bénéficier d'une subvention de l'ADEME, mais ça reste quand même assez compliqué. Hormis le fonds friche, on a un dispositif qui est assez méconnu encore aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Et pour entrer en vigueur, il faut que les collectivités publiques l'entendent. La loi de finances pour 2023 a prévu que pour les autorisations d'urbanisme, permis d'aménager, permis de construire, qui seront délivrés à compter de cette date, donc 1er janvier 2024, une possibilité d'exonérer en totalité ou partiellement de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement toutes les opérations qui portent sur la réhabilitation d'une friche. C'est-à-dire que toute autorisation d'urbanisme qui vise effectivement à réaliser une opération d'urbanisation sur une friche pourra bénéficier effectivement d'une exonération totale ou partielle de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Mais simplement, pour que ça puisse être possible, il faut impérativement que le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal, si c'est une part communale de la taxe d'aménagement, ait voté avant le 1er juillet 2023 pour que ça puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Et pour l'année suivante, il faut que ce soit avant le 1er juillet 2024 pour que ça entre en vigueur au 1er janvier 2025. La seule question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que les communes ou les intercommunalités vont accepter de renoncer à quand même une part très importante de taxes d'aménagement pour favoriser la réhabilitation de friches. Ce n'est pas évident, mais en tout cas, je suis favorable effectivement à ce que les collectivités publiques s'engagent dans cette démarche.
Voilà pour l'aspect financier. On va parler des règles d'urbanisme. Est-ce que le porteur d'un projet d'aménagement hein, ou de construction à réaliser dans une friche bénéficie justement de règles d'urbanisme plus favorables ?
Oui, alors il existe effectivement, là encore, c'est la loi climat résilience du 22 août 2021 qui l'a introduit.
Elle
a
pour les encourager, en fait.
Tout à fait, pour encourager les promoteurs et les aménageurs à porter des projets sur les friches. Effectivement, on a introduit dans le code d'urbanisme une disposition qui permet, alors c'est pas de plein droit, c'est on va dire à la discrétion du maire. Le maire peut, nous dit le code d'urbanisme, c'est l'article L156-2-3 de mémoire, ou -4, l'autorité compétente peut, par décision motivée, permettre une majoration dans la limite de 30% du gabarit. Le gabarit, c'est finalement l'enveloppe extérieure du bâtiment, hein, c'est une conjugaison de plusieurs règles, dont la hauteur. Donc 30% de majoration du gabarit, et déroger complètement aux règles de stationnement lorsque l'opération porte sur une friche et qu'il y a remploi finalement des matériaux qui sont situés dans la friche. Dans ce cas-là, l'autorité peut évidemment déroger à l'application de ces règles dans les limites que je viens d'indiquer.
Et on va terminer cette interview par le côté un peu plus sombre, pour faire un peu place au concret, au terrain. Quelles sont les problématiques, les principales problématiques rencontrées par les aménageurs, par exemple, dans un projet d'urbanisation dans une friche? Et aussi, est-ce que, on l'a dit en introduction, hein, ça peut devenir un calvaire pour les aménageurs?
Tout à fait. Alors, c'est, je dirais, l'aménagement d'une friche pour un aménageur, c'est un parcours du combattant. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a un certain nombre d'aménageurs, je vois mes amis du Crédit Mutuel Aménagement Foncier, qui ont l'expérience de ce type d'opération. C'est des opérations qui sont portées sur plusieurs années.
Mais c'est long.
C'est très long. Bastille. Plusieurs scénarios sont envisageables. Premier scénario, c'est la collectivité qui est propriétaire de la friche, donc du foncier que constitue cette friche, et qui va lancer ce qu'on appelle un AMI ou un appel à projet, c'est à peu près la même chose, pour sélectionner un aménageur. Donc, faut d'abord constituer un lourd dossier. Il y a une concurrence, vous n'êtes pas le seul. Quand le Crédit Mutuel Aménagement Foncier se porte sur ce type d'opération, il est rarement seul, il y a d'autres concurrents qui sont là aussi, et c'est finalement le meilleur qui va l'emporter. Donc c'est déjà un dossier qui est très lourd. Ensuite, il y a une délibération par laquelle on va vendre le foncier. Il suffit que vous soyez dans une commune où il y a de l'opposition, où la friche, c'est un peu l'enjeu, on est à quelques mois des élections, c'est pas totalement impossible que l'opposition va engager une procédure contre la délibération par laquelle le conseil municipal accepte de vendre aux candidats retenus dans le cadre de l'appel à projet le foncier nécessaire à son opération. Ça, c'est déjà dans les phases d'acquisition. Ensuite, il va falloir évidemment dépolluer. On l'a dit, c'est une friche. En règle générale, la friche, il y a de la pollution. C'est extrêmement compliqué pour un aménageur, et ça je parle en pratique, de savoir si le foncier que j'achète dans le cadre d'une friche est totalement dépollué ou pas. Alors certes, il y a souvent des études de sol,
et
des audits, des diagnostics environnementaux qui ont été réalisés. Malheureusement, en pratique, ce dont on se rend compte, c'est que ils sont quelquefois faits un peu rapidement. Ils ont été faits il y a quelques années. La collectivité, elle, de toute façon, publique, elle ne s'embarrasse pas. Elle va dire, de toute façon, moi, je vous vends sans aucune condition suspensive. De toute façon, il y a tellement de besoins aujourd'hui pour les aménageurs ou pour les gros constructeurs, gros promoteurs, d'acquérir du foncier.
En gros, c'est débrouillez-vous.
C'est débrouillez-vous, c'est exactement cela. Donc, je vais acheter un foncier, je ne sais pas trop, j'ai une étude de sol, bon, je sais qu'il y a un peu de pollution, ou beaucoup ou pas. Mais je ne maîtrise jamais, si vous voulez, le risque, encore une fois, en phase chantier. Quand je vais faire du terrassement, je suis sur un site où il y avait des hydrocarbures. Il y a une étude de sol qui a été faite. Malheureusement, on n'a pas identifié tous les spots. Je fais du terrassement, je tombe malheureusement sur une poche d'hydrocarbures. On a de la nappe phréatique, ça vient migrer dans toute la nappe phréatique. Je peux vous dire que derrière, il y a des sacrées conséquences. Ça peut même être pire, j'ai fait mon terrassement, il n'y a pas eu de difficulté, je vends des charges foncières à un constructeur, et c'est le constructeur auquel j'ai vendu les charges foncières qui, lui, se retrouve, quand il fait son opération de promotion immobilier, à faire du terrassement sur sa partie, et malheureusement, il tombe là encore sur une poche d'hydrocarbures. Je peux vous dire qu'en termes de responsabilité, ça peut être extrêmement douloureux pour l'aménageur. Donc la pollution du sol sur les friches est quelque chose qui doit absolument être vu dès le départ. Hein. Même si la collectivité publique vous impose, je dirais, la vente sans aucune condition suspensive, le meilleur conseil que je puisse donner à un aménageur, c'est, même si ça coûte de l'argent, tant pis, ça tombera dans le bilan, c'est de faire des études les plus précises possibles. Parce qu'encore une fois, sur les friches, Si notamment on sait que c'est des hydrocarbures, il faut être extrêmement vigilant. Évidemment, ça dépend de la...
Parce que là, ça devient dangereux.
Ça devient très dangereux. Et surtout, il y a des conséquences qui sont très, très douloureuses, parce que ça veut dire que tant que vous n'aurez pas résorbé la problématique de la pollution, vous ne ferez rien. Ça va coûter très cher. Vous aurez l'adréal qui sera sur votre dos, etc., etc. Donc, ça peut être très compliqué. La problématique est accentuée quand c'est un privé qui vous le vend. Parce que le privé, lui, là encore, il s'en fiche royalement qu'il y ait de la pollution. Et alors, quand c'est une acquisition auprès d'un mandataire judiciaire, c'est encore pire. Le mandataire judiciaire, il n'a même pas eu les fonds pour réaliser l'étude de sol. Donc, c'est, il vous vend...
Sans aucun diagnostic.
Et vous vous retrouvez avec un terrain, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est un peu le calvaire quand même qu'on constate en pratique. Il y en a d'autres... il va falloir faire une évaluation environnementale. Quelquefois, ces évaluations environnementales, elles vont avoir, je dirais, des incidences très importantes. Dans notre jargon, on parle de l'évaluation environnementale Vivaldi, puisqu'il y a 4 saisons. Il va falloir retarder d'une année votre opération immobilière, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a une espèce animale ou une espèce végétale qui est protégée au niveau international. Je donnais l'exemple en aparté précédemment sur une commune qui est au nord de Strasbourg. C'était un ancien aérodrome totalement artificialisé. Problème, c'est que sur cet aérodrome, il y a une plante qu'on appelle la gagée des prés. La gagée des prés, c'est une plante qui est protégée au niveau communautaire. On a perdu un an à faire des études parce qu'il y avait une gagée des prés sur un terrain qui faisait plusieurs dizaines d'hectares et qui était une zone complètement artificialisée, puisque c'était une ancienne plateforme d'aérodrome.
Abandonnée, donc. Hein.
Complètement abandonnée, une véritable friche. On a d'autres, évidemment...
Et juste comment ça s'est terminé, du coup?
Finalement, ils ont pu faire l'opération, mais on a perdu des années.
Un an, ne serait-ce que pour
ça. On peut avoir d'autres problématiques qui sont encore plus pervers. C'est j'ai obtenu mon permis d'aménager sur ma friche et problème, personne n'a vu qu'il y avait une espèce protégée. Il va falloir ensuite faire un dossier de dérogation espèce protégée avec les conséquences qui quelquefois sont douloureuses là encore, que quelquefois on vient nous dire maintenant vous ne pourrez pas parce que votre opération... elle impacte trop cette espèce protégée. Donc, vous aurez déjà engagé des centaines de milliers d'euros, voire même plus, en études. Et finalement, vous ne réaliserez pas l'opération. Vous avez les problématiques d'archéologie préventive. Là encore, malheureusement, vous êtes sur une friche. Vous n'auriez jamais imaginé qu'il y avait d'anciens sites archéologiques. Malheureusement, il y en a.
On a une table ronde avec l'INRAP, justement, d'accord, tout à l'heure.
Fouille archéologique, on trouve quelque chose. Monsieur, vous êtes gentil, mais pendant 2 ans, le temps qu'on ait fini les fouilles archéo, vous ne faites rien sur l'opération. Ça, c'est tout l'effet extérieur qu'il est très compliqué de pouvoir anticiper.
Avant l'acquisition, en fait,
voilà,
de la friche.
Tout à fait. Donc ça, il faut, dans la mesure du possible, pouvoir l'anticiper, le prévenir. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'encore une fois, ça génère des moyens humains et des moyens économiques qui sont quand même très importants. Ça, c'est, je dirais, c'est les aspects purement techniques. Après, je finirai là-dessus, calvaire aussi quand la collectivité publique n'est pas partenaire du projet. La difficulté pour un aménageur et un constructeur aujourd'hui, c'est d'avoir à côté de lui, pas face à lui, à côté de lui, un partenaire. L'expérience montre qu'aujourd'hui, on a une administration et des élus qui, malheureusement... Et ça permet de faire le lien avec ce que j'ai dit au départ sur les refus de permis de construire et les refus de permis d'aménager. L'administration devient de plus en plus un adversaire du porteur de projet. Et ça, c'est très difficile parce qu'on a quand même un problème de friche. Il faut la résorber.
Donc tout le monde joue le jeu au final.
Il faudrait que tout le monde joue le jeu. Et encore une fois, pour citer le Crédit Mutuel Jean Foncé, puisqu'il est juste en face.
On le voit bien.
Les opérations qu'ils ont faites récemment, 2 opérations assez emblématiques, qui sont d'une part à Verdun et d'autre part à ce qu'on appelle Montigny-lès-Metz, qui est en Moselle. Effectivement, ces opérations n'ont pu sortir que parce qu'il y a eu une véritable association, il y a eu un partenariat entre les élus, enfin les collectivités publiques et l'aménageur.
Tout le monde a été embarqué.
Tout le monde a été embarqué.
Et c'est ça qui fonctionne.
C'est l'élément déterminant. Vous ne ferez jamais une opération d'aménagement sur une friche si vous n'arrivez pas à convaincre la collectivité du bien fondé de votre projet. Et la collectivité, au contraire, va pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Pour prendre quelques exemples, on a dans le code de l'urbanisme des pouvoirs qui permettent aux élus de geler la constructibilité de terrain. Dans notre jargon, on appelle ça le PAPAG. Ce n'est pas un bel acronyme, c'est ce qu'on appelle le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, c'est quoi? C'est pendant 5 ans, moi, collectivité publique en charge du PLU, je vais pouvoir geler toute opération de construction. Et on voit certaines friches, notamment en région strasbourgeoise, des friches qui sont des vrais viviers d'urbanisation, qui aujourd'hui ont fait l'objet de cette servitude. Parce que les élus ont dit, pour l'instant, on ne va pas ouvrir à l'urbanisation cette zone, vous pouvez faire ce que vous voulez, pendant 5 ans, ce sera gelé. Ça, c'est un premier outil qui est entre les mains des élus. Il y en a d'autres, il y en a un second qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle la prise en considération, enfin la mise à l'étude, prise en considération d'une opération d'aménagement. C'est-à-dire que la collectivité va délimiter un périmètre, ça peut être une friche, et d'ailleurs on l'a vu sur certaines friches, en disant, sur ce secteur-là, dès qu'une demande d'autorisation d'urbanisme sera déposée, je vais opposer le sursis à statuer. C'est-à-dire que je ne vais pas délivrer le permis, je ne vais pas le refuser, mais je vais geler en quelque sorte les possibilités de construire sur ce site. Enfin, troisième élément qui est à la disposition d'une collectivité qui ne voudrait pas d'un projet sur une friche, c'est l'exercice du droit de préemption. Il y a une cession foncière entre un propriétaire ou un mandataire et un porteur de projet. La collectivité qui n'a absolument pas envie du projet sur cette friche va dire « j'exerce mon droit de préemption ». Donc on va voir que effectivement, les friches apparaissent comme un Eldorado, c'est un nouvel Eldorado, mais c'est quand même très
impulsé par le gouvernement. Hein.
Voilà, tout à fait, quand même très poussé par le gouvernement. Ce qu'il faut simplement, c'est que cette volonté qui existe au plan des pouvoirs publics national, soit relayée au niveau local. Malheureusement, dans le contexte actuel, ça n'est pas toujours le cas.
Et on en revient toujours au même problème, en fait, le millefeuille administratif français.
Absolument.
Merci infiniment, maître, pour nous avoir éclairé sur ces trois sujets. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine table ronde.
Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Immo et Radio Territoria.